Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Troisième partie, le trône de Dieu.
Notre étude, vous avez vos Bibles. Alors, je rappelle tout simplement la première étude, le premier rendez-vous que nous avons eu autour du livre de l'Apocalypse, Jésus, fils de l'homme. En d'autres termes, nous pourrons l'intituler, cette première, un rappel, c'est un récapitulatif, la lumière de Dieu qui se lève dans les ténèbres. Ça, c'était notre première étude. La dernière fois, la seconde étude, c'était le message où tout simplement, eh bien, message aux sept églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons entreprendre notre troisième étude, c'est le trône et la gloire de Dieu qui est marqué par l'adoration dans le ciel. L'adoration de Dieu, eh bien, de ce qui se passe dans le ciel, et nous en dirons naturellement, eh bien, quelques mots. Dans le livre d'Ésaïe, je vais introduire cette étude. Écoutez bien, ça va vous rappeler quelque chose. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors, nous allons maintenant lire le quatrième chapitre de l'Apocalypse, où il est question du trône et de la gloire de Dieu. Alors, vous ouvrez votre Bible, Apocalypse, chapitre 4, verset 1er. Et nous apporterons le commentaire après. « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et en dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Dieu, et notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà, que Dieu nous éclaire à travers tout cela, parce que c'est vrai que l'abord de l'Apocalypse n'est pas simple. Alors on va essayer de rendre les choses difficiles et rendre simples. C'est tout un travail. Le chapitre 4 s'ouvre, vous l'avez constaté avec moi, sur une vision céleste. Alors là, on a décollé de la terre. C'est vraiment le ciel. Une porte s'entrouve, l'avons-nous lu, sur ce qui se passe dans le ciel. En d'autres termes, nous pourrions dire que Dieu va lever un coin du voile de ce qui est mystérieux, de ce qui est invisible aux hommes, pour chacun d'entre nous naturellement. Et c'est Jean qui a l'insigne privilège de voir et qui nous raconte. Jean l'apôtre est convié à être le témoin et il fait que raconter ce qu'il voit. C'est une vision naturellement. Les chapitres précédents, notamment le chapitre 2, le chapitre 3 que nous avons vu la fois dernière, ont décrit les événements et les incidents traversés par l'Église, l'Église de Christ, le corps de Christ, en 7 épisodes et qui ont donné 7 messages. On les a commentés et qui constituent, ces 7 messages constituent un saisissant raccourci de l'histoire. On en a parlé la fois dernière, si vous vous souvenez, c'est-à-dire les choses qui sont. Dieu voit les choses qui sont. Et il ouvre la vision à Jean pour raconter comment elles sont. Maintenant, avec toujours l'apôtre, nous entrons dans le sanctuaire de Dieu pour aborder, non pas les choses qui sont, comme nous l'avons lu, les choses qui doivent arriver bientôt. Alors ça peut nous intéresser, parce que finalement, eh bien, nous sommes interpellés par cette conception des choses. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais avant qu'elles se passent sur la terre, elles sont déjà en préparation, elles se passent dans le ciel. Et c'est le sens, c'est tout le sens et la finalité, simplement, eh bien là, du livre de l'Apocalypse. Ce qui était, ce qui est et ce qui vient. C'est-à-dire les événements de la fin. La Bible en parle. Elle en parle suffisamment pour que nous puissions être avertis et que nous puissions garder la foi. Et voilà ce que dit Jean. « Je regardais et voici la voix qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Lorsque nous irons un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, viendra un peu plus tard les visions terrifiantes. Les visions apocalyptiques, c'est le mot, le qualificatif qui est employé. « Ce qui se passera sur la terre. » Mais auparavant, et ce qui nous est parlé de la gloire de Dieu, du trône de Dieu dans le ciel, pour nous chrétiens, je ne parle pas pour les autres, mais pour nous chrétiens, c'est quelque chose qui doit nous aider à espérer, qui doit nous aider dans ce qui va arriver sur la terre et qui va certainement être redoutable, à ne pas perdre notre foi en Dieu parce que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui maîtrise toutes choses, et que nous avons besoin, eh bien, les uns et les autres, eh bien, de nous fortifier en raison des événements qui sont prévus. Mais auparavant, avant que ça arrive, le Seigneur montre à l'apôtre Jean, de l'apôtre Jean à nous, puisqu'il l'a écrit, les splendeurs célestes. Hey. Les splendeurs du ciel pour fortifier son apôtre. Et en même temps, nous qui lisons, éclairés par le Saint-Esprit, que nous soyons fortifiés. Vous savez, il y a eu de semblables expériences que celles de Jean. Je pense à Paul quand il nous est dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel et qu'il a vu des choses ineffables, des choses qu'on ne peut pas mettre des mots dessus. Tellement, eh bien, ce n'est que splendeur, gloire, et avec tous les qualificatifs qui vont avec. Jean, et nous rapporte le texte, il est ravi en esprit. C'est la dimension spirituelle, ravi en esprit. À l'instant, l'esprit se saisit de moi et je tombais en extase. Voilà. Ce sont des expériences qui ne sont peut-être pas familières ou coutumières, mais dans la Bible, nous les trouvons. Et aujourd'hui encore, dans notre 21e siècle, Dieu est encore capable de parler à des hommes. Non pas pour écrire l'Apocalypse, hein, c'est fait. Non pas pour écrire des livres apocryphes, parce que là, c'est rejeté. Mais tout simplement pour des révélations, des paroles de connaissance, toutes sortes de choses. C'est ce qui se passe avec le prophète Ézéchiel. Il nous a dit qu'à un moment donné, Dieu l'a saisi. Il l'a soulevé. Et il a été stupéfait parce qu'il a été emmené justement dans ces dimensions. Eh bien qu'un homme au stade naturel ne peut accéder. Selon toute vraisemblance, il ne s'agit pas d'un phénomène hypnoptique. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Vous comprenez pas ce que ça veut dire hypnoptique ? Hein, le monde de l'occulte, le monde des ténèbres. Hein. Voilà, ce n'est pas un phénomène qui vient de ce monde-là. Qui, quand c'est de l'hypnose, eh bien plonge l'individu dans l'inconscience ou modifie sa conscience. Mais c'est réellement un transport dans la dimension spirituelle et céleste qui laisse à Jean toutes ses facultés. Il voit, il entend, il vit comme normalement, mais il est dans une autre dimension, comme Paul quand il raconte son histoire dans 2 Corinthiens que vous connaissez. Ce n'est pas quelque chose, finalement, qui va enlever eh bien, ce qui est de la personnalité de l'homme. Même si ce qu'il voit et entend relève pour le commun des mortels, des mortels, ça relève du merveilleux et de l'ineffable. Donc je ne pourrais pas en dire plus. Enfin, je vais continuer, mais je ne pourrais pas en vous dire plus sur la chose parce que je ne trouverai pas les mots pour le dire. Quand on parle du ciel, on n'a pas de mots pour parler du ciel. Il peut y avoir des mots que nous connaissons, les plus beaux peut-être, mais ça s'arrête à un moment donné parce que lorsque nous arriverons de l'autre côté, il n'y aura rien de comparable avec cette terre et même ce qu'il y avait de plus beau et de meilleur, ça sera véritablement quelque chose qui pâlira devant la splendeur du ciel. Et là, nous sommes, eh bien, à considérer ces choses. Et nous voyons que Jean, est capable ensuite de le restituer avec une certaine précision pour preuve. Il est à dire que ce n'est ni une expérience recherchée, Jean ne l'a pas recherchée. Ce n'est pas non plus une expérience provoquée, il ne l'a pas provoquée. Et ce n'est pas des expériences répétées. Il y a des gens qui sont avides de connaître ce qui se passera de l'autre côté. Mais nous sommes avertis de ne pas tomber dans le culte des anges, dixit Paul dans Colossiens. Parce qu'à ce moment-là, c'est du mysticisme. Et Jean, bien qu'il ait certainement une âme d'une sensibilité spirituelle, n'est pas un mystique. Et nous avons ce genre de choses, naturellement. Dans la Bible, c'est vrai, ça existe. Et nous voyons qu'à un moment donné apparaît sur la scène qui s'ouvre devant nous un trône majestueux qui indique la mise en place d'un tribunal. Alors un trône, on le trouve où ? On le trouve dans les palais. Je ne sais pas si vous avez un trône chez vous. Mais un trône, on le trouve dans les palais, dans les lieux les plus majestueux et qui ont là, en effet, toute une importance. Et il ne s'agit pas d'un trône dans un palais, il s'agit d'un trône dans le ciel, mais il s'agit d'un trône dans le ciel, un trône de tribunal. Voilà. Donc il y a derrière cela une pensée de jugement. Parce que le jugement est arrivé. Les gens qui peuvent peut-être croire, le monde incrédule qui dit Dieu n'existe pas, les choses arriveront ou elles n'arriveront pas, la fin du monde c'est des histoires, ceci et cela, hein, et finalement les choses se renouvellent et il n'y aura pas de fin. Oui, mais il y a un moment, dans le monde de l'iniquité, dans le monde de l'injustice, il y a un temps, il faut s'y attendre, où il y aura véritablement une fin. Il y a une fin à tout, hein, de toute manière. Il y a une fin à tout. Alors il s'agit d'un trône de tribunal. Ce jugement, en fait, a débuté par l'Église, dans les 2 chapitres que nous avons vus la fois dernière. Ça commençait par l'Église. C'était à la fois, tout simplement, des louanges de la part du Seigneur, mais ça pouvait être des approbations. Non pas pour perdre les chrétiens, mais les amener à se ressaisir lorsqu'ils méritaient un blâme, pour véritablement eh bien, continuer à marcher. Et nous voyons que ces louanges et ces désapprobations étaient prononcées. Et c'est maintenant, au vainqueur, écoutez bien, parce que c'est important pour nous, c'est au vainqueur de prendre place dans le tribunal solennel, comme la promesse leur en a été faite, vous en souviendrez, dans Apocalypse chapitre 3, nous l'avons vu la fois dernière, verset 21, « Celui qui est vainqueur, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Et nous nous retrouvons maintenant, les vainqueurs par la foi, les vainqueurs en Jésus-Christ, les vainqueurs par Jésus-Christ, se retrouveront à juger. Oui, nous n'avons pas été jugés parce que nous avons cru en Christ. Et nous avons échappé à ce jugement. Selon ce que Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais parce que nous avons été rachetés, que nous ne sommes plus jugés, que nous avons échappé au jugement de Dieu, nous nous retrouvons justement dans ce tribunal pour y faire quelque chose. Et c'est ça, véritablement. Paul le dira à un moment donné, quand il y avait toutes les histoires à Corinthe. Il dit, vous n'êtes pas capable de vous juger vous-même entre vous pour régler les affaires au lieu de prendre des tribunaux humains ? Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges ? C'est écrit ça aussi. Hein. Alors, c'est une dimension que je ne pourrais peut-être pas vous expliquer savamment, pour la bonne raison que ça fait partie de certains mystères. Mais toujours est-il que les choses sont appliquées. Et nous en arrivons à la phase ultime et tant attendue, décrite dans le livre des Actes, où il est question du rétablissement de toute chose. Le ciel, le trône de Dieu, le jugement de Dieu, pour le rétablissement de toute chose. Et Dieu va remettre les choses en ordre. Et ça commence par là. Rétablissement de toute chose et juger. Et qu'est-ce que veut dire juger ? C'est remettre chacun et chaque chose à sa place. Notre monde est un monde de désordre, tant dans le domaine moral, dans le domaine spirituel, de confusion, de cacophonie, de tout ce que vous voudrez, les choses seront mises en place. Parce que quand Dieu les a créées, il les a mis en ordre. L'homme, avec le péché, a tout mis en désordre. Et à la fin, les choses seront remises en ordre, tout simplement. Dans la vision, la première chose qui frappe les regards de Jean, c'est ce trône, symbole de l'autorité suprême et du jugement parfait. Et son apparition, l'apparition de ce trône, indique que les temps de la grâce sont révolus. Nous vivons dans les temps de la grâce, nous sommes dans la dispensation de la grâce, dans l'économie de la grâce, on pourrait dire. Mais à un moment donné, ça prendra fin. Et on le verra par la suite dans les autres chapitres de l'Apocalypse. Vous verrez, il y a toute une procédure. Donc les temps sont révolus de grâce. Et qu'enfin, la justice divine, après laquelle nous soupirons, nous, l'Église, devant ces crimes, devant ces atrocités, devant cette méchanceté, devant cette diabolisation, nous pourrions dire, de tout dans ce monde, alors nous soupirons et nous crions, mais Seigneur, viens bientôt, parce que ça devient insupportable, irrespirable. Le monde est en train de s'asphyxier dans les monstruosités. Alors, à ce moment-là, la justice divine est prête à intervenir, mais ça sera une fois pour toutes. Dieu juge de temps en temps, ça c'est sûr. Mais viendra un moment où les choses seront définitives. Vous remarquez avec moi que le trône n'est pas vide. Quelqu'un l'occupe, sans que le personnage ne soit décrit. La grande surprise, c'est qu'on le verra la fois prochaine. Le personnage est assis, mais il n'est pas décrit. Jean se contente de dire « quelqu'un ». Ou encore, on l'a lu tout à l'heure, « celui qui est assis ». Ça reste encore secret pour l'instant. Cependant, ce qui attire l'attention de l'apôtre, c'est l'environnement dont la comparaison se porte sur le monde minéral, le plus précieux. Si vous suivez avec votre Bible, vous allez voir. Il est dit ceci. « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. » C'est curieux, hein ? Quelle comparaison avec le monde minéral. « Une pierre de jaspe et de sardoine, diamant et topaze. » Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je m'explique. Nous avons dans cette description le premier aspect de la justice divine. Le jaspe présente des coloris vert tendre. Suivez bien. La sardoine, couleur de la chair. Le diamant et topaze offrent des propriétés telles que l'indissolubilité. Le diamant raie tout autre minéraux sans que lui-même soit rayé. Une pointe de diamant, vous savez ce que c'est? On s'en sert dans les technologies de haute précision. Le diamant raye, mais lui n'est jamais rayé. Et il y a une raison pour ça. C'est une image, et cette image de là nous démontre la personne divine, nous démontre la majesté divine, son impartialité qui a le pouvoir sur toute chose, sans qu'aucune chose n'ait de pouvoir sur lui. Dieu est inaltérable. Dieu reste Dieu. Dieu reste inattaquable. C'est pour ça qu'il est parlé de cette caractéristique minérale dans la description de celui qui est assis sur le trône. Puis il y a un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, il est émeraude, c'est-à-dire qu'il est vert. Il est vert, les hommes ont eu l'habitude de dire que c'était la couleur de l'espérance. Hein. Mais il brille dans le firmament de cet univers, dans ce monde sidéral, comme un halo. Vous savez ce que c'est qu'un halo resplendissant? Autour du trône, il y a le trône et il brille autour, qui rappelle à l'humanité, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, la miséricorde du souverain juge qui ne veut pas la mort. C'est pour ça qu'il est vert, c'est pour ça qu'il y a de l'espérance. Qui ne veut pas la mort, mais la conversion et le salut du pécheur. On peut se représenter, il y a beaucoup de peintres des temps passés qui, en lisant l'Apocalypse, l'ont décrit par des tableaux. Hein. Mais je ne vais pas vous faire une peinture ce soir. Je ne suis pas doué pour ça. Mais je suis le texte. C'est une étude de texte que nous faisons. Au moment du jugement final, les hommes doivent se souvenir qu'ils ont rejeté la grâce. Pas pour les chrétiens, mais les hommes. Et comme au jour du déluge, Dieu leur remémore son alliance, l'arc-en-ciel. Vous connaissez? Où Dieu dit, je ne détruirai pas la terre. Et Dieu leur dit, souvenez-vous. Souvenez-vous des jours de Noé. Alliance rompue et trahie avant de punir. C'est cela la question. Cette fois, l'arc n'est plus que d'une seule couleur. Il est vert, tout simplement. Maintenant, nous arrivons à un second aspect de la justice divine, le verset 5. Je le relis. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. On revient sur le texte. Il y a des éclairs, il y a des voix et il y a du tonnerre. C'est ce qu'on avait entendu jadis au Sinaï. Si vous connaissez, s'il vous plaît, si vous connaissez l'histoire de l'Exode, alors Sinaï, ce qui donne à entendre que le jugement sera conforme aussi à la loi, puisque Sinaï c'est la loi. Et le jugement de Dieu sera conforme à ce que Dieu a édicté dans la législation. Les éclairs expriment la rapidité, les voix, les sentences prononcées, et le tonnerre, l'effroi. Ça saisit d'un seul coup, c'est l'effroi. Sept lampes ardentes, nous est-il dit, qui correspond aux sept esprits de Dieu. Dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit faisait office de lampe. Il est pour nous la lumière, la lampe. Le Saint-Esprit fait office de lampe pour éclairer la conscience humaine. Au temps du jugement, cette lampe est devenue un feu ardent. C'est toujours une lumière, mais un feu ardent. Et consume ce qui est bois, ce qui est chaume et ce qui est paille. Ça vous ramène à ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2 ou 3. Il ne restera plus que l'or, l'argent et les pierres précieuses. Il ne restera plus que ça. 7. Chiffre de la totalité, chiffre de la perfection et de l'intensité qui réfléchit sa clarté. Les 7 esprits de Dieu. Sur une mer de verre semblable à du cristal. C'est pour ça que l'Apocalypse est un petit peu difficile à suivre. Parce qu'on a du mal, hein. Mais les choses peuvent être expliquées. Sur une mer de verre semblable à du cristal qui montre qu'aucune fraude ne subsistera et rien n'échappera à cette lumière parce qu'elle est divine. Le cristal, vous savez ce que c'est, hein? C'est la clarté, quasi parfaite. Le cristal est d'une transparence absolue. Aussi rien ne pourra être dissimulé devant le trône du jugement. Peut-être sur cette terre, nous avons encore des choses à cacher dans nos poches ou dans nos sacs à dos, ou d'une manière ou d'une autre. Mais là, le détecteur fonctionnera parfaitement. Aucun problème de ce côté-là. La place sera totale pour la vérité. Et c'est important que je le souligne. Pour la vérité. Il ne restera plus que la vérité. Il n'apparaîtra que la vérité. Le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Au tribunal céleste, Jean y aperçoit 24 trônes, 24 vieillards en vêtements blancs et couronnés d'un diadème d'or. Tout ceci a un sens bien précis. Il représente l'Église. Ah, peut-être que vous vous êtes posé la question, hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Je répète, tous les commentateurs sont d'accord sur la question. Ils représentent l'Église dans ce qu'elle a de glorieux. Ce n'est pas l'Église de la terre, c'est l'Église de l'autre côté. Dans la gloire. Ce n'est pas l'Église souffrante, l'Église combattante, l'Église militante qui est aujourd'hui ce que nous sommes, mais ça sera l'Église triomphante, la représentation. Il forme un jury, puisque je vous ai dit que nous sommes appelés à juger. Il forme un jury, celui des vainqueurs. Et pourquoi ? 24, peut-être pour nous rappeler les deux alliances de l'Ancien et du Nouveau Testament, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. 12 et 12, ça fait 24. On arrivera aux 144 000, hein, parce que 12 fois 12, ça fait 144. On verra ça à ce moment-là. Contrairement à l'indication de leur âge, il est parlé de vieillard, hein, il ne nous est pas donné leur âge, mais il nous est parlé de vieillard. Alors un vieillard, on se l'imagine avec des grands cheveux blancs, un petit peu tremblotant peut-être, hein. Mais contrairement à l'indication du nom qu'il porte, il ne s'agit en rien d'une église vieillissante et décatie. Comprenez? Non. Vieillard et ancien. Mais il s'agit des rachetés parvenus à la gloire, simplement des hommes qui ont fait l'expérience de leur faiblesse. De leur faiblesse d'homme, tout simplement, dans leur corps d'humiliation. Avant la gloire, il faut passer par l'humiliation. Avant la gloire, il faut passer par la croix. Il faut passer par notre condition d'homme, dans tout ce que nous sommes. Donc corps d'humiliation, mais transformé par la grâce. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la repentance, c'est l'œuvre de la conversion et c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. Je dis bien transformé par la grâce et qui ont atteint la pleine maturité. C'est pour ça que Paul dira dans Éphésiens, « Je prie pour vous pour que vous soyez des hommes faits. » On n'arrive pas des petits-enfants de l'autre côté. Le Seigneur va nous amener d'étape en étape, à ressembler à Christ, à être semblable à l'image de Christ. Donc la maturité, la maturation et nos combats, nos épreuves, tout ça, ce n'est pas pour nous détruire, c'est au contraire, c'est pour nous amener à être emportés comme des gerbes en son temps. Vous connaissez hein, ça, ce terme biblique. Et une gerbe en son temps, c'est une gerbe qui est mûre, naturellement. L'âge est ici synonyme d'accomplissement total. C'est pourquoi il est parlé de vieillard et d'ancien. Le vêtement blanc figure leur intégrité sans tache. Et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils ont lavé leur sang. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Alors, laver avec du sang, ça tache. Mais là, le contraire, ça blanchit. C'est le contraire. Quant aux couronnes d'or, elles témoignent, tout comme leur position assise sur des trônes, et ils ne sont pas debout, leur couronne témoigne du haut degré d'honneur dans lequel Dieu les considère. Ouais. Dieu fait de nous des princes et des rois, des sacrificateurs. C'est pour ça qu'il y a une couronne d'or sur notre tête. À venir, hein. Toutefois, si nous regardons plus avant, ils ne sont pas seuls, puisque le texte nous dit « au milieu et autour du trône, il y a ensuite une autre catégorie. Il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Ça ressemble à de la science-fiction, hein, tout ça. Est-ce que vous vous régalez lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel ? Seigneur, aide-moi à comprendre. Ouais. Alors, il y a les 24 vieillards d'un côté, mais il y a maintenant quatre êtres vivants. Alors là, il y a une petite nuance à faire. Qui sont-ils, ces quatre êtres vivants ? Ça semble énigmatique, hein ? Leur position est encore plus rapprochée du trône divin. Leur caractère dominant est la vie. C'est pourquoi il est parlé d'être vivant. Leur caractère dominant, c'est la vie. Les autres aussi. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Et ils sont encore plus proches du trône. Leur nombre est de 4. Les autres étaient de 24. Là, ils sont 4. Leur qualité est la clairvoyance, parce qu'ils ont des yeux partout. Leur service incessant, jour et nuit, nous l'avons lu, est de proclamer l'universel et éternel souveraineté de Dieu, seigneurie de Dieu. Dieu est Seigneur. Il est maître du ciel et de la terre. Il domine partout. Les versets 6 et 8. Des êtres vivants, avons-nous dit il y a un instant. Certains ont objecté la création animale. Est-ce qu'il est bien dit, hein ? Par le fait, à cause de la description du verset 7, où il est dit ceci. Verset 7, que je le retrouve. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Alors je reprends. Certains ont pensé que c'était la création animale qui était décrite à ce moment-là. Mais ce serait un contresens. Ce serait même un non-sens de voir placer dans l'immédiate présence de Dieu dans le ciel, le monde inférieur des animaux. Je dis bien le monde inférieur des animaux. Ce n'est pas ça, c'est une comparaison, tout simplement. Comparaison, avons-nous dit. Il s'agit d'hommes vainqueurs, comme les premiers. Mais à la différence, à une différence près, ce sont également des rachetés, comme les 24, dont la position imminente est le résultat de ce qu'ils ont été sur terre, comme les premiers aussi. Mais en précisant quelque chose. D'abord, Jésus laisse entendre dans Jean chapitre 14 et verset 2 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous connaissez ? Ne craignez point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On est dans le ciel, hein ? Vous êtes bien encore sur terre. Je préfère quand même vous le dire. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'œuvre de sanctification de ces quatre êtres vivants par rapport aux autres 24. Écoutez bien parce que c'est intéressant. L'œuvre de sanctification joue un rôle prépondérant quant à notre place définie là-haut selon les paroles. L'enfant de Dieu recevra des responsabilités en proportion de sa fidélité et il aura fait preuve ici-bas et pris cette classe glorieuse. Ouais, tout simplement, en fonction, non seulement de ce que nous sommes dérachetés, mais de ce que l'œuvre de la sanctification aurait été accomplie, peut-être plus grandement, mais ça va encore beaucoup plus loin, on va le découvrir d'ici quelque temps. une œuvre de sanctification, une œuvre de fidélité, une œuvre de consécration fera que nous serons encore plus près du trône de la grâce. Et est-ce que ces quatre êtres vivants ne feraient-ils pas partie de ceux qui auront donné leur vie, les vainqueurs de la mort, ceux qui sont morts en martyrs? Il y a des hommes à travers toute l'histoire de l'Église qui ont donné leur vie, qui sont morts en martyrs, par amour pour Jésus-Christ. Nous, on n'est pas dans cette condition-là. Mais ceux qui auront donné leur vie, ceux qui auront versé leur sang. Nous, on meurt comme, je dirais, naturellement, normalement. Mais il faut dire qu'il y en a eu avant nous. Il y en a peut-être encore dans certains pays où il y a persécution, fait rage. Mais dans les derniers temps, au moment du déchaînement de l'Antéchrist et de toute cette grande tribulation qui va venir sur le monde, il y en aura qui vont donner leur vie. Et ils font partie probablement, c'est ce que nous pouvons peut-être penser, les vainqueurs de la mort qui auront fait le sacrifice par amour. Oui. Dans Apocalypse, vous retrouverez, je ne veux pas trop m'étendre, mais dans chapitre 2, 7, 10 et 11, il vous est dit, justement, tous ces martyrs dans l'Église première, dans l'Église primitive, qui n'ont pas eu crainte de la mort. Voilà. Toutes ces considérations ne sont pas à rejeter et on ne peut y voir que la diversité qui transparaîtra de l'Église, l'épouse dans la gloire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je crois que dans le ciel, il y aura des hommes et des femmes qui seront rachetés comme par le feu. Ce qui veut dire qu'ils auront été des hommes et des femmes qui auront entendu l'évangile, qui auront peut-être été baptisés, mais qui auront peut-être mené leur vie sans finalement un développement de leur vie spirituelle. Ils seront sauvés comme par le feu, ils seront sauvés quand même, pour la bonne raison que peut-être au dernier moment, ou peut-être tout au long de leur vie, ils auront cru que Jésus est leur sauveur. Ils n'auront peut-être pas vécu comme Jésus voulait qu'ils vivent, mais ils seront sauvés comme à travers le feu, parce qu'on est sauvés, non pas en raison de ce qu'on fait, mais en raison de ce qu'on croit. Et le sang de Jésus nous sauve. La foi dans le sang, dans l'expiation de Jésus nous sauve. Ça, c'est le salut, tout simplement comme sauvés par le feu. Il y aura ceux qui auront construit avec de la paille, avec du... Ça disparaîtra. Ils seront sauvés quand même, comme par le feu, tout simplement. Puis il y aura ceux qui auront été véritablement, qui auront travaillé dans leur vie. Travailler dans leur vie, à leur vie intérieure. Ce n'est pas le travail de l'évangélisation, ce n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Mais travailler à leur sanctification, à aimer le Seigneur, à souffrir pour le royaume de Dieu et tout cela, alors il y aura encore une autre dimension. Le rôle imparti aux êtres vivants tient à leur compétence pour juger le monde, issus eux-mêmes de l'humanité. Dieu les placera justement sur le trône, sur les trônes, pour juger l'humanité, parce qu'ils auront fait partie de l'humanité. Comme Christ lui-même est descendu dans les lieux ici-bas pour nous sauver parce qu'il a connu l'humanité. Et nous voyons qu'eux-mêmes seront proposés à ce jugement parce que ce sont des gens qui ont connu le monde des hommes par leur faculté de vue. Il nous est dit qu'ils ont des yeux devant et des yeux derrière. Nous, on n'en a que devant. Ils sont habilités à juger en vérité le passé, c'est-à-dire derrière. Les yeux derrière. Ça a un sens, hein? À la lumière de l'avenir qui les éclaire, c'est-à-dire devant. Et l'avenir à la lumière du passé. Vous saisissez? C'est tout un ensemble de choses et c'est cohérent. Le verset 7, j'y reviens. Le premier donc était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à la face d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Voilà qui éclaire le mystère de leur personnalité propre et de leur caractéristique, de leur caractère spécial au vainqueur. Ils sont semblables. C'est une comparaison. Il ne nous est pas dit qu'ils sont des lions. Il ne nous est pas dit qu'ils sont des veaux, qu'ils sont ceci et cela. Ils sont semblables. Et on va retrouver ça tout le long de l'Apocalypse. Cette comparaison, cette manière de comparer. Comparaison qui relève la qualité ou les qualités de ces vainqueurs. Il nous est dit que le premier est semblable à un lion, et le lion se caractérise par la vaillance, par le courage et par la force. Et il est des croyants dans les églises qui ont manifesté ces qualités jusqu'au sacrifice par amour et au nord du royaume de Dieu. Ils ont été vaillants, ils ont été forts par l'Esprit de Dieu. Ils ont été courageux par l'Esprit de Dieu. Ils ont été comme le lion de Juda. Vous savez qui s'appelle le lion de Juda? Vous savez ça. Dans leur foi. Je pense à un Moïse, je pense à un David, et également un Paul. On peut dire que c'était des lions de Juda aussi, ceux-là. Hein, les seconds, à un veau. La traduction nous dit à un bœuf. Vous allez voir pourquoi. Qui typifie l'endurance et la persévérance au labeur, parce que tu ne t'es pas fatigué. Dira Dieu à l'église de Éphèse ou une autre, je me souviens, parce que tu ne t'es pas lassé. Donc l'endurance et la persévérance au labeur dans le royaume de Dieu. Combien ont été, même dans un travail peu valorisant, des artisans silencieux, patients d'une belle moisson en raison de leur fidélité tenace à dépierrer le terrain, à ensemencer, à tracer les sillons dans des champs d'évangélisation ingrats. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, on veut tous voir un réveil, on veut tous voir une moisson abondante. Mais il y en a qui auront droit à la moisson abondante, et il y en a qui resteront peut-être dans des petites églises, et qui rameront toute leur vie, mais ce n'est pas pour ça que leur travail sera moindre que ceux qui seront les moissonneurs. C'est pour ça qu'il faut s'encourager les uns et les autres. Et on n'a pas à baisser les bras. Si Dieu nous a placés là, eh bien c'est parce que Dieu veut que nous soyons là. Et c'est parce que nous avons le caractère pour être là. Et Dieu nous donnera la force pour être là. Et il nous donnera la récompense, même si nous n'avons rien vu. Et on aura des surprises de l'autre côté, vous verrez. Moi, j'y crois. Ça, c'est une projection de la foi et de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. On veut tous être à la première place. En apparence. Mais vous savez, c'est pas facile hein, d'être là pendant des années en disant « Mais Seigneur, il n'y a pas d'âme, ils ne viennent pas, etc. » Seigneur, c'est terrible. Mais le Seigneur est là, et il nous soutiendra, et il nous soutient. Parce que c'est là qu'il veut que nous soyons. « Je te bénirai là, » dit Dieu à Élie au torrent de Kérit. Eh oui, tout simplement. Ça, c'est un aspect des choses. Quand je pense à Noé qui a prêché pendant qu'il construisait son arche pendant je ne sais pas combien de temps, il y avait Enoch également, qui était un prédicateur qui ressemblait justement, eh bien, tout simplement, là, à un bœuf, en quelque sorte. Hein. Et puis, il y avait Epaphras. Et vous lirez l'histoire d'Epaphras, c'est très intéressant. Le troisième aspect à la face d'un homme, c'est un trait distinctif qui est à l'inverse de la bête. Un homme, ça a un visage. Une bête, ça a autre chose. Et qui caractérise l'intelligence et la spiritualité. Et quand la spiritualité, ou quand l'intelligence est spirituelle, c'est encore autre chose, c'est encore mieux. Ceux qui auront été sages, prudents, conduits par la sagesse d'en haut, pour se diriger soi-même et diriger les autres. Et ça, c'était ce qui avait la caractéristique d'un homme comme Daniel, le prophète Daniel. Écoutez ce qui est dit dans Daniel chapitre 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles à toujours. » Troisième aspect. Enfin, le quatrième aspect. « À un aigle qui vole. » Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ne serait-ce pas ceux qui ont été remarquables par leur promptitude et leurs ailes pour la cause de Dieu? Un aigle, ça vole à une vitesse fulgurante. Et il voit tout. Hein. Et il voit devant, il voit derrière, il voit partout. Hein. Et quand ils font sur sa proie, je ne sais pas, ça a été un peu kilométré, c'est une vitesse effrayante. Hein. Et oui, et c'est la caractéristique justement d'une partie de ces chrétiens qui, quelque part, eh bien, ont été toujours prompts à servir le Seigneur, ont été toujours là, eh bien, à une rapidité extraordinaire, à un zèle pour Dieu qui les a brûlés, qui les a dévorés, et qui ont su se libérer de toute attache terrestre, libre comme l'air qui vole et qui s'élève vers les cieux. Un homme comme Élie a été prompt à servir le Seigneur. Pierre, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir, enfin, hein, son impétuosité était toujours le premier, hein, pour dire Seigneur. Hein. Bon, il a appris des choses aussi. Et Jean aussi, fils du tonnerre, Boanerges, ça veut dire ce que ça veut dire. Quelle représentation glorieuse de caractère telle que recouvrent les quatre êtres vivants. Et ils ont aussi six ailes qui imaginent l'humilité pour se couvrir et le service encore des yeux, mais cette fois, ses yeux sont dedans et sont autour, tout simplement. Les ailes, l'image de l'humilité, et les yeux autour et dedans, ce qui laisse penser qu'ils connaissent tout ce qui est extérieur et qu'ils n'ignorent rien non plus de tout ce qui est à l'intérieur. Nul ne peut se cacher devant le regard de Dieu. La connaissance est complète et c'est heureux pour juger dans ce tribunal solennel. Enfin, ils ont une bouche qui s'ouvre, de nuit comme de jour, pour louer la sainteté de ce Dieu Tout-Puissant en proclamant son éternité. Le verset 8 nous dit ceci, « Ce Dieu qui était, qui est et qui vient. » Les quatre vivants, jour et nuit, proclament la même chose. Nous l'avons devant nous. Il ne cesse de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Et je termine maintenant. Il y a dans les derniers versets, de 9 à 11, on a vu le trône, on a vu ce qu'il y avait tout autour, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. La prochaine fois, on verra celui qui est assis sur le trône. J'en ai pas parlé, hein. On verra ça la prochaine fois. Mais il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans les versets qui terminent ce chapitre. C'est un concert de louanges et d'adoration dans le ciel. Écoutez bien. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, etc., vous allez y revenir. Vous avez remarqué, ce n'est pas décrit dans une vision que Jean a vue. Ils étaient comme ça, ou ils seront comme ça. C'est dit au présent. Si vous remarquez, ils rendent gloire. Ils rendent gloire. Alors que les êtres vivants louent Dieu parce qu'il est assis sur le trône de sa majesté et qu'il est vivant pour l'éternité, quand les êtres vivants rendent gloire, donc je l'ai lu il y a un instant, à celui qui vit au siècle des siècles, voilà que les 24 vieillards s'associent au culte dans le ciel. L'unité parfaite sera réalisée quand chacun saura reconnaître les perfections divines et s'associer d'une même voix. Ce n'est pas le cas sur la terre, hein, et même dans l'Église. Mais là-haut, ça sera ça. Quand je vous ai dit que Dieu remet de l'ordre, il remet de l'ordre. Ces derniers, entendez par là les 24 vieillards, ces derniers se lèvent de leur siège, se prosternent, adorent et jettent tout à coup leur couronne en signe qu'ils n'ont aucunement mérité cette distinction. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est le triomphe de la grâce célébrée. Le triomphe de la grâce. Parce que nous ne méritons rien. Et si Dieu nous donne accès dans son ciel, et non pas dans un petit coin sombre du ciel, mais sur le trône, autour de lui, avec lui, c'est véritablement un privilège. Un insigne privilège qui nous est réservé uniquement pour le prix de notre foi. C'est parce que nous avons cru, c'est parce que nous l'avons mérité, et parce que nous l'avons cru. Et que disent-ils ? Que disent-ils ? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Avons-nous remarqué quelque chose dans ce que je viens de relire ? Au cantique des êtres vivants qui exaltent Dieu pour ce qu'il est, les 24 vieillards, c'est-à-dire les seconds, répondent en le bénissant pour ce qu'il a fait. Nuance. C'est pas la même chose, hein. Les uns adorent le Seigneur pour ce qu'il est, les autres pour ce qu'il a fait. Passé, présent et bientôt l'avenir. Bientôt l'avenir. L'adoration céleste n'aura d'autres thèmes, que la célébration de celui qui est créateur et sauveur, celui qui a voulu notre vie, qui a sauvé notre vie, qui a voulu notre salut et qui nous a donné ce salut et qui veut tout partager avec nous, et cela pour l'éternité. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et c'est vraiment l'amour de Dieu qui nous est manifesté. Et il y a un cantique nouveau. Est-ce que nous en connaissons les paroles du cantique nouveau ? On va faire une petite incursion au chapitre 5, verset 8, au verset 10, et c'est le cantique nouveau. On le commentera la prochaine fois, rassurez-vous. Verset 8, « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Ils régneront sur la terre. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est l'adoration ? Je finis maintenant. Vous savez, l'adoration que nous avons sur la terre, même dans nos moments d'exaltation saisis par le Saint-Esprit, ce n'est rien à côté de ce que ce sera de l'autre côté. Ça ne sera rien du tout de ce que ça voudra signifier. L'adoration, c'est une contemplation qui nous fait rentrer dans une autre dimension. C'est tout autre chose. Et je crois que dans tout cela, eh bien, le Seigneur a certainement quelque chose à nous dire la prochaine fois. On reparlera de l'adoration. Et pas de l'adoration de n'importe qui. L'adoration de celui que nous n'avons pas parlé encore. Celui qui est assis sur le trône. De ce quelqu'un qui est assis sur le trône. Il s'appelle Jésus. Et nous verrons ce que c'est que l'adoration. On rentrera dans une autre dimension. Que Dieu nous bénisse ce soir. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. C'est une étude du texte, tout simplement. C'est une étude biblique. Mais ça nous permet peut-être, finalement, de réfléchir à tout cela. Et puis, si vous le réécoutez, vous le réécouterez autant que vous voudrez parce qu'il est enregistré, tout simplement. Voilà, il sera sur CD. Il sera également sur l'Internet. Vous pouvez faire comme vous voulez. Alors que Dieu nous bénisse maintenant. Et je rappelle une dernière chose, c'est que la prochaine étude, ça sera le mercredi 15 décembre à 20h. Et nous aborderons le sujet Christ, digne d'ouvrir le livre scellé. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons simplement terminer en remerciant Dieu. Et je vais demander à Michel, si tu veux bien maintenant, eh bien clôturer cette réunion et que Dieu vous raccompagne les uns et les autres. Merci beaucoup.